Il est 6h, presque 3 minutes. À la météo, ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement ensoleillé, mais il pourrait y avoir un risque d'averse ce matin à 30% seulement. Alors, donc, il va y avoir du soleil, mais des nuages aussi, maximum de 29 degrés. Ça va s'ennuager au cours de la nuit pour laisser de la pluie demain qui va débuter en mi-journée. Il va y avoir un maximum de 24 degrés, 31 à l'humidex. Les averses vont se poursuivre dans la nuit de samedi à dimanche. Des nuages prévus pour dimanche avec 29 degrés, donc ça va être peut-être humide et chaud. 40% de risque d'averse pour la nuit de dimanche à lundi. De la pluie intermittente lundi. Retour du soleil prévu pour mardi avec 29 degrés. Il fait 19 degrés en ce moment à Montréal. Alors évidemment, ce dont on parle majoritairement à la une d'à peu près tous les quotidiens ce matin, ben c'est la victoire du Canadien hier, 3-2 contre les Golden Knights de Las Vegas, et ben aussi de ce qui s'est passé par la suite. Alors, à la une du Journal de Montréal, c'est le miracle de la Saint-Jean, finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans. Mais le chaos également après la victoire, c'est ce qu'on dit aussi dans le journal La Presse, où on fait une espèce de compte-rendu ou de fil de la journée, ce que nous disait tout à l'heure Sabrina, là, qui était sur place, elle, au cours des célébrations d'après-match. On est en finale, on l'a fait, ce que disait un partisan. Alors, ça traduit quand même assez bien l'euphorie qui s'est emparée de la foule hier. Gaz lacrymogène qui ont dû être utilisés, voitures de police renversées. Bref, ça a fêté, ça a débordé peut-être un petit peu là à la suite de cette belle victoire du Canadien hier, qui va mener à la finale de la Coupe Stanley, qui va débuter. Donc, je pense que François nous disait tout à l'heure que c'est lundi prochain. Alors, on a bien hâte de voir la suite des choses. Pour l'instant, on va laisser les Canadiens se reposer un peu là, puis penser, n'est-ce pas, les petits bobos qui surviennent lors de séries comme celle-là. Donc, c'est quand même hier là, la nouvelle qui a, je dirais, aplati, si on veut, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, parce que d'habitude, ce dont on parle le 25 juin dans cette émission, ben c'est davantage des spectacles qu'il y a eu un peu partout. Mais là, évidemment, le spectacle, il s'est passé au Manoir Richelieu, entre autres, dans Charlevoix, au cours de la soirée d'hier. Jessica va nous en parler un petit peu plus tard dans sa chronique. Mais donc, hier, c'était aussi journée de Saint-Jean-Baptiste. C'était jour férié. Et ben on en parle beaucoup moins aujourd'hui par la force des choses. C'est intéressant. En page 4, vous savez, le Canadien, c'est la seule équipe canadienne. C'est l'équipe canadienne, en fait, qui s'est rendue le plus loin, bien sûr, dans les séries. Mais au cœur de l'Arctique, donc du Grand Nord canadien, il y a une petite famille à 3000 kilomètres du Centre Bell, un couple du Nunavut et ses 6 enfants qui sont probablement les fans les plus au nord de la Sainte-Flanelle. C'est ce que rapporte le Journal de Montréal ce matin. En fait, tout le monde a un gilet du Canadien. Ils sont 8 et puis ils ont tous les couleurs, n'est-ce pas? Le rouge, bien sûr, le gilet du Canadien. Et ils sont vraiment Arctic Bay. Si vous regardez la carte du Canada, là, c'est difficile d'aller plus haut au nord. Arctic Bay, vous tombez à l'eau à un moment donné. Puis la seule chose qu'il y a en haut là, ben, c'est des phoques puis des morses. Alors, bravo quand même à ces gens-là qui ont sans doute suivi le match hier avec beaucoup d'attention. Et ben restons dans les festivités parce que vous vous souvenez l'année passée, ce dont on parlait en début d'été, c'était bien sûr parce qu'on était en pleine pandémie, puis là les gens avaient passé un hiver difficile, confiné, etc. Puis ça avait déconfiné, puis pas à peu près à Rawdon. Souvenez-vous là, de ce qui s'est passé à Rawdon, il y avait eu à peu près entre 4 et 6 000 personnes qui s'étaient rendues au l'espèce de parc là qui est le parc des Cascades à Rawdon, qui est un, il y a une rivière là, puis c'est un bel endroit, mais là il y avait 4 à 6 000 personnes qui étaient réunies à cet endroit-là, puis au point où on savait plus où mettre les voitures, les résidents du secteur étaient envahis. Eh bien là, les autorités prévoient mettre en place des mesures pour empêcher la tenue aujourd'hui d'une fête clandestine qui a été organisée à Rawdon par des jeunes de Montréal qui en ont fait la promotion sur les réseaux sociaux. Or, c'est pas une fête qui est autorisée puisque les gens, les responsables du parc des Cascades ont jamais donné la permission à ces gens-là de venir s'installer dans leur rivière, finalement, puis venir faire la fête de façon un peu désordonnée. Alors, ça a été organisé par un gars qui s'appelle Yoni Palencia, qui, lui, est bien fier de son coup d'avoir fait circuler cette vidéo-là partout sur les médias sociaux. Et puis, il dit c'est vraiment là. Il dit « Je suis vraiment content que tout le monde partage l'événement. Les gens partagent avec un gros mot anglais. Et c'est beau à voir. Merci, guys », dit-il. Alors, est-ce qu'on va revivre la même aventure que ce qu'on avait vécu l'an passé à cette même date? En tout cas, c'est parti pour. Bien sûr, au Canada, si on regarde l'actualité qui a retenu l'attention hier, c'est cette nouvelle onde de choc entourant les pensionnats autochtones. Et cette fois, ben, le chiffre magique, le dernier, c'était 215, souvenez-vous, au mois de mai. Ben là, c'est 751, c'est le nombre de tombes anonymes qui ont été découvertes à proximité de l'ancien pensionnat autochtone de Marival, en Saskatchewan. Alors, bien sûr, on en parle énormément depuis hier. Ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est que on a fait des fouilles archéologiques avec des espèces de machines là, qui peuvent détecter les anomalies dans le sol. Et puis, on avait répertorié jusqu'à 300 tombes jusqu'à maintenant, mais finalement, en faisant le tour de cette espèce de cimetière où il n'y a pas de pierre tombale, là, on est rendu maintenant à 751. Alors, est-ce que ce sont tous des enfants qui ont fréquenté ce pensionnat autochtone qu'ils ont fréquenté? Ils étaient obligés d'y aller, hein, ce pensionnat autochtone. C'est ça le drame des pensionnats autochtones au Canada. Il y en a qui ont été répertoriés au Québec. Je pense qu'il y en a 6 qui sont répertoriés au Québec. Alors, les yeux du monde se sont tournés, dit-on dans la presse, vers le chef de la première nation de Kaosès hier, dont ceux de plusieurs médias européens. Le pensionnat catholique nous a fortement impacté, a-t-il déclaré. Il s'agit de Cadmus Delorme. Et c'était souvent des pensionnats qui étaient religieux, opérés par des congrégations religieuses. Bien, même si c'était en Saskatchewan, celui-là était opéré, ou en fait, plusieurs membres des Sœurs de Saint-Joseph, une congrégation de Saint-Hyacinthe, ici, là, tout près de Montréal, avaient été envoyés sur les lieux de ce pensionnat dès 1901. Elles y sont restées jusqu'en 1977, ou 79 plutôt. Alors, on ignore pour le moment de quel ordre était l'implication des religieuses québécoises là-bas, mais il reste qu'elles ont été présentes à ce pensionnat de Marival. On peut retrouver l'information sur leur site Internet. Évidemment, ça réagit beaucoup. Des gens ont parlé hier, on entendait les mots « camp de concentration », génocide, tous ces mots-là sont revenus dans l'actualité hier à la suite de la découverte de ce cimetière-là. C'est pas une fosse commune en passant, là. C'est vraiment des tombes qui sont anonymes. On dit qu'on avait enlevé les pierres tombales dès 1960, alors ça rend à peu près impossible d'identifier les restes des personnes qui étaient dans ce cimetière. Se disant consterné par les événements, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, lui, a dit que « Bien que difficile et affligeante sur le plan émotionnel, la vérité se manifeste enfin, la violence que nos peuples ont subie et les impacts intergénérationnels qui en ont résulté causent beaucoup de détresse dans nos communautés », a-t-il dit. Et toujours dans la presse ce matin, il y a une aînée de ce centre, de ce pensionnat Marival, une dame de 80 ans qui s'appelle Florence Sparvier, qui raconte comment les enfants étaient traités dans ces pensionnats. Vous savez ce qu'on faisait, là? Les pensionnats, c'était des endroits qui étaient destinés à assimiler, si on veut, les Autochtones. Alors, on leur enlevait leurs enfants en bas âge, on les amenait dans ces pensionnats-là. Les enfants n'avaient pas le droit de pratiquer leur culture, travailler selon ou apprendre les rites de la religion catholique. Ils pouvaient pas parler leur langue, pouvaient pas parler à leurs parents, etc. Donc, c'est tout ça dans le but de les assimiler, faire en sorte qu'éventuellement, il n'y ait plus de cette culture-là. Donc, c'est un... beaucoup ont utilisé le terme « génocide culturel ». Alors, c'est pas étranger à ce qui s'est passé là-bas non plus. Cette dame de 80 ans raconte, elle disait, ils nous ont fait croire qu'on n'avait pas d'âme. Ça, c'est les religieux qui recevaient ces enfants-là. Et ensuite, elle dit, elle poursuit en disant, à l'époque, si les parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent au pensionnat, l'un d'eux devait aller en prison. Alors, pour garder la famille unie, nous sommes allés au pensionnat. Alors, il y a trois générations qui sont passées, de sa famille à elle, là, qui sont passées justement dans ce pensionnat Marival. Après, sa mère et sa grand-mère, elle aussi, s'y est rendue, évidemment, forcée par la force des choses. Alors, on va essayer d'y revenir un peu plus tard dans cette émission parce que c'est vraiment un drame humain épouvantable qu'ont vécu les gens qui ont fréquenté ces fameux pensionnats. Bien sûr, on va beaucoup parler aujourd'hui de pandémie, c'est par la force des choses. Et à compter d'aujourd'hui, d'ailleurs, les personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin, moi, entre autres. Moi, j'ai deux AstraZeneca, remarquez, là, je ne sais pas si ça compte pareil. Ah, d'accord. Donc, qui ont reçu leurs deux doses de vaccin n'ont plus besoin de porter un masque ou de maintenir une distance avec les autres lors des rassemblements privés à domicile, alors que les grands festivals, autres grands événements extérieurs vont pouvoir aussi accueillir jusqu'à 3500 personnes. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Jusqu'à présent, environ un Québécois sur cinq a reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. On parle pas d'un nombre élevé pour le moment, mais quand même, là, c'est autour de 20 %. Alors, les gens concernés doivent tout de même se rappeler que le risque est toujours là et qu'ils peuvent, bien sûr, se contaminer. Et là, ben, il y a le fameux variant Delta qui commence à se répandre. Il y a un cas, je pense, nous disait Esther tout à l'heure au Canada. Alors, c'est ce qui inquiète en ce moment. On va revenir un peu plus tard avec la santé publique sur, justement, les nouvelles consignes. Et le camping est désormais formellement interdit sur les plages de Gaspé. Vous vous souvenez aussi ce qui s'est passé l'année dernière. Les gens qui, un peu en désespoir de cause, parce qu'on pouvait pas sortir de la province, se rendaient dans différentes régions du Québec, la Côte-Nord, entre autres, mais surtout la Gaspésie. Et les baux de location négociés avec le gouvernement du Québec permettent de devenir locataire de ces plages publiques. Et ça confère donc à la ville de Gaspé le pouvoir d'en réglementer l'usage, de sorte que la ville veut éviter les débordements de l'an dernier. Alors, il y a trois plages en particulier qui ont été envahies par de nombreux touristes qui étaient venus faire une espèce de camping sauvage. Il y avait la plage Haldimand, Douglaston et Boom Defense. Alors, donc, il y a de la surveillance qui va être faite à ces trois endroits et les campeurs qui s'installent pour dormir sur les plages pourraient recevoir une amende qui va aller jusqu'à 2 000 $. Alors, c'est sûr que ça peut en décourager un ou deux, ça fait cher de la nuit, n'est-ce pas? Alors, on ne veut pas revivre ce qu'on avait vécu l'an dernier, mais il doit y avoir des alternatives, bien sûr, qui ont été prévues, parce que si les gens s'y rendent, il faut bien les loger quelque part. Et, ben, conséquence aussi de ce, j'allais dire des changements climatiques, mais on le voit là depuis quelques années, il fait un petit peu plus chaud plus tôt à chaque année. Et puis, ben, le printemps hâtif qu'on a eu et les températures plus élevées avec des conditions qui étaient favorables font en sorte que plusieurs fruits et légumes d'ici connaissent un début de saison qui est anormalement hâtif. On est à peu près 2 semaines en avance sur la normale, de sorte que là, ça impose toute une gymnastique aux agriculteurs parce que, entre autres pour les petits fruits, ben ça prend des gens pour les cueillir, les petits fruits. Puis, généralement, on compte sur la main-d'œuvre étrangère, n'est-ce pas? Les gens du Guatemala, du Mexique qui viennent cueillir les petits fruits. Puis, ils n'étaient pas arrivés alors qu'on était prêt à récolter. Donc, il y a des petits fruits, entre autres des fraises, qui se sont perdus dans les champs parce qu'on n'était pas en mesure de récolter tout ça. Et aussi, ça va amener des changements pour les agriculteurs. On dit que la carotte nantaise, le chou-fleur, le brocoli, la laitue iceberg, la betterave en feuilles, le céleri rave et les pois verts, bien sûr, sont tous déjà disponibles et c'est à peu près 2 semaines à l'avance. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a des produits frais de chez nous un petit peu à l'avance. Même le blé d'Inde sucré pourrait arriver un petit peu plus tôt qu'à la normale. Alors, les épluchettes pourraient se faire plus de bonheur. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, mais il faut s'y habituer parce qu'on n'est pas, d'habitude, on attend un petit peu plus tard dans l'année. Mais là, évidemment, on pourra en profiter un petit peu plus à l'avance en notant, bien sûr, qu'on est capable de les cueillir. Et à part ça, qu'y a-t-il d'autres de notables dans les... Ah oui, voulez-vous vous acheter un oratoire. Si vous voulez vous acheter un oratoire, il pourrait y en avoir une à vendre bientôt. Parce que vous savez qu'il y a des travaux qui sont suspendus à l'oratoire Saint-Joseph depuis 8 mois parce que le chantier, n'est-ce pas, a connu certaines ratées sur le plan financier. De sorte qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui y travaillent, qui ont déposé des hypothèques légales parce qu'ils se font pas payer. Entre autres, il y a l'entreprise de Saint-Eustache, Côté électrique, qui... on leur doit une somme de 497 000 $. Alors, il y a des intérêts là-dessus, puis eux autres, ils se font pas payer. Puis, il y a aussi, il y a un autre, le groupe Descarel, qui est responsable du chantier. On leur doit 8,6 millions de $, la corporation de l'oratoire. Alors, ces gens-là ont décidé de prendre une hypothèque légale, puis s'ils se font pas payer, ils vont vendre l'oratoire. Alors, si vous voulez vous acheter un oratoire, ça se pourrait qu'il y en ait une à vendre bientôt, n'est-ce pas? Surveillez Kijiji, ça pourrait vous arriver.